Salut à toutes et à tous, curieuses et curieux, en bonne santé, mieux vaut pour vous. Vous écoutez Fréquence 7, vous écoutez L'Onde Curieuse, signe qu'il est midi pile ou 17h si vous écoutez la rediff. L'émission d'aujourd'hui, mardi 20 juin, veille d'équinoxe, est consacrée à une vieille lune, mais toujours bien vivante, la 6ème République. Faut-il se débarrasser de la 5ème, d'un pouvoir quasi-monarchique? Comment? Pourquoi? On en parle pendant plus de 35 minutes avec Raquel Garrido, qu'on a interviewée vendredi dernier, alors qu'elle se déplaçait à Villeneuve-de-Berre pour une réunion publique à ce sujet. Chouette interview qu'on a réalisée avec Quentin. Quentin qui est aux manettes aujourd'hui. Salut Quentin!
Salut Sophie.
Bonjour tout le monde.
Mais avant, on prend la température de ce qui se passe ici et là-bas.
Qui commence ?
Eh ben oui.
Eh oui.
Avec la grève dans les hôpitaux.
Avec la grève dans les hôpitaux, j'ai plus assez de mains, je ne sais plus quoi faire. On le sait, la grève dans les hôpitaux, bon, l'histoire dure depuis des années, voire des décennies. L'hôpital, en tant que service public, a du plomb dans l'aile ou dans le pied, ça dépend des situations. Toujours est-il que je lisais un vieil article du journal La Croix qui expliquait en 2020 que les hôpitaux publics français employaient plus d'un million de personnes au total, un effectif qui est équivalent à ceux de Carrefour, Auchan, La Poste et Peugeot réunis. Donc parmi ces effectifs, 95 000 médecins, 34 000 internes, 13 500 sages-femmes, mais également 267 000 infirmières et infirmiers, 230 000 aides-soignantes. Le Sénat, en avril 2023, donc ce printemps, a réalisé une série d'auditions auprès des personnels soignants pour comprendre un peu quel était ce mal qui touchait l'hôpital. Donc ils signalent dans leur rapport qu'au cours des auditions, les mots lassitude, épuisement, fatigue collective, malaise et souffrance sont constamment revenus, que ce soit de la part des praticiens, des soignants, des cadres de direction ou d'autres acteurs de la communauté hospitalière.
Oui, ce qui donne que la fermeture de lits qui a été, la baisse des lits entamée il y a une vingtaine d'années continue ces dernières années. Il y a eu 18 000 lits fermés durant le premier mandat d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2021 et la chute continue. Quant au personnel suspendu pour raison de vaccination, alors il semble que leur nombre soit minime, à peu près 0,3% de la masse des travailleuses et travailleurs, et n'influe pas vraiment sur la prise en charge. Cela étant, ce chiffre ne tient pas compte des personnels qui ont abandonné leur métier pour se reconvertir, ni de l'impact de telles mesures sur la motivation à travailler en hôpital, et ça on en rencontre évidemment de plus en plus. Mmh. On expliquait aussi il y a un mois que les étudiants infirmières et infirmiers sont en crise de vocation, et ce qui se traduit par 3 fois plus de défections à la fin de leur première année d'études en 2021 qu'en 2011. Il y a 3 fois plus d'infirmières, on sait 87% d'infirmières sur les étudiants, qui 10% qui abandonnent à l'issue de la première année. Le numerus clausus aussi chez les médecins explique en partie également le manque de personnel hospitalier.
Et oui, et pour ces raisons et pour d'autres, ces raisons et d'autres qui ont entraîné la fermeture des urgences de l'hôpital d'Aubenas la nuit depuis le mois d'avril. Et selon toute vraisemblance, le plan de l'État est d'aboutir à la fermeture des hôpitaux de campagne et de région pour répartir les soins sur les gros pôles hospitaliers. Donc pour nous, ça serait Valence, Avignon ou Nîmes. Mais on rappelle que tout ça n'a rien d'inéluctable. C'est le fruit d'une politique ultralibérale de la santé qui court depuis 20 ans, voire plus, et qui contraint les hôpitaux à dresser des bilans financiers encourageants. Je lisais ce matin qu'on parle d'un déficit de 30 milliards d'euros dans la santé publique, comme si c'était un service marchand, alors qu'en réalité, ce que la création de la sécurité sociale et compagnie du service public en général doit nous rappeler, c'est qu'on investit en fait dans ces choses qui sont le bien-être de la population. On pose des sous là, et s'il n'y a pas de retour, c'est pas grave.
Mais le monde est aplani sous une seule dimension, celle de l'efficacité, la rentabilité. Parmi tellement. C'est pauvre.
Et du coup, aujourd'hui, le 20 juin, les syndicats nous convient, usagers, usagères, personnels soignants de tous bords, à un rassemblement. Alors c'est cet après-midi à 15h devant l'hôpital d'Aubenas. Il y a plusieurs raisons qui sont invoquées, Sophie.
Oui, augmenter les salaires et dégeler le point d'indice, augmenter le SMIC, revaloriser les pensions, investir dans les services publics, apporter tous les renforts en moyens humains et matériels partout où cela est nécessaire. le respect du choix de la pause de leur congé, des repos RTT et CET, et la revalorisation des heures supplémentaires et du CET. Voilà ce que la CGT ce sur quoi elle a communiqué.
Et du coup, bah, rendez-vous cet après-midi à 15h devant l'hôpital d'Aubenas pour crier notre mécontentement, en espérant que peut-être, si on est réunis devant tous les hôpitaux de France, quelqu'un ou quelque chose nous entendra et se produira. On continue ces actualités avec un truc un petit peu plus joyeux potentiellement.
Ouais, potentiellement, oui, on l'espère quand même. La fête de la musique. Est-ce que vous vous souvenez en 2020 de l'appel du gouvernement pour la fête de la musique ?
Ah, moi, je l'ai retrouvé parce que sur le coup, ça m'avait choqué. Alors, le ministère de la Culture appelait en 21 juin 2020 tous les musiciens de France, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qu'ils jouent de la musique ancienne ou du jazz, voire même du rock ou de la variété, sont invités à interpréter ou réinterpréter Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson.
Oui.
Le 21 juin, tous ensemble, à 20h. Alors, on applaudissait les soignants à cette heure-ci, on avait l'habitude, et bien finalement, on pourra chanter Véronique Sanson.
Mais je pense que l'invitation du gouvernement à uniformiser la fête de la musique autour de, ouais, d'un kitsch rassembleur n'a pas vraiment fonctionné, n'a pas eu trop d'écho.
Ouais, ça n'a pas eu beaucoup d'écho, effectivement. Il y a quand même eu des rassemblements fêtes de la musique en France à droite à gauche. C'était, voilà. Mais peut-être que c'en est bien fini de ces restrictions. On rappelle que la fête de la musique vise à l'origine à permettre à tous les musiciennes et musiciens, quelle que soit leur affinité musicale ou politique, de s'exprimer. On rappelle que malgré ce bel appel à la liberté d'expression musicale, en 2019, notre ami Steve a perdu la vie, noyé dans la Loire, après une intervention plutôt musclée des CRS pour déloger des fêtards qui s'étaient réunis sur le quai Wilson à Nantes autour d'un son techno. Alors, en mémoire, en hommage à Steve, soyons partout avec des guitares, des sound systems, des microphones, des percussions. Nous, aujourd'hui, on vous a sélectionné plusieurs options dans le coin.
Oui, à Aubenas, la soirée qui est organisée par la salle du Bourneau et les services culturels de la ville, c'est une vraie fête de la musique, bien respectée dans son principe, le soir du solstice, avec une grande scène installée place du château, et puis une dizaine de petites scènes dans les rues de la ville. Alors à ne pas manquer, surtout sur la grande scène, le concert de Zara Electric à 20h15. C'est une fusion plutôt riche entre des phrasés envoûtants de Gnawa, une boîte à rythme électro. C'est la rencontre entre le désert marocain et une plage d'Ibiza pour faire chauffer le pavé d'Aubenas.
Et oui, et le concert qui suit à 22h, c'est Groumph, c'est un groupe qui laisse
qui a l'air rigolo.
Ouais, et qui laisse cette impression pourtant, Groumph. Voilà, c'est un groupe qui t'enjaille et te déçoit un peu. Ils ont bon fond, ils sont plein de bonne volonté, les instrus sont super propres, on leur enlèvera pas ça, c'est de la vraie Britpop à la sauce ardéchoise, mais sur le côté dansant présenté, moi je sais que je les ai vus 2-3 fois et le public est toujours chaud, on se dit que les morceaux vont décoller, et en fait non, un peu comme un Concorde en bout de piste d'atterrissage. Voilà, voilà. Mais ne désespérons pas, c'est
non,
une bonne...
Non, mais surtout...
Ça reste de la musique de qualité en plein air, voilà.
Voilà, surtout qu'il y aura, comme on vous le disait, une dizaine de groupes un peu partout répartis dans la ville. Par exemple, Gruffaz, Electrics Rock, DJs World et Festif Place de l'Airette, ou Pierre Lafrenet en jazz. Place de l'Église. Place Grenette, Cala Dansol, c'est la chanson. Jardin du Dôme, Nema et Sema, c'est les écoles de musique. Enfin bref, et de la Batucada avec une déambulation, la Batucada Bamaya. Super batouk dans la ville, voilà.
Et oui, donc si vous êtes à Aubenas, c'est tant mieux. Si vous êtes un peu plus à l'est, au Tipi, à Saint-Germain, la fine équipe a réuni du beau monde dans leur petit coin de paradis. Donc une grande fanfare, c'est Marakawa, les génies décalés Verge et Clitorix qui font du punk approximatif d'apéro.
On ne peut pas ne pas aller les voir, Verge et Clitorix.
Le virtuose vagabond Forest Pookie qui fait de la folk pop, c'est plutôt sympa.
Et la dompteuse de breakbeat, c'est DJ Coops, drum and bass.
Ouais, donc une grosse session de drum and bass au Tipeee de Saint-Germain. Ils vous attendent donc pour un métissage musical qui fera même hésiter le soleil à aller se coucher.
Et puis pour les montagnards, fête de la musique à Boré de 18h à minuit dans la salle de l'Agasse. Alors ils ont prévu, parce que c'est vrai qu'on a été un petit peu refroidis par les les pluies qui se sont succédées ces derniers temps. Donc ce sera dans la salle de l'Agace avec de 18h45 à 19h45 une scène ouverte.
Un concert des élèves de l'antenne des sources, un concert de klaxons, c'est 10 musiciens de funk.
Et à 22h, concert de Mon cœur balbite du bal tropical électrique entre la valse musette et les clashs. Mon cœur balbite, franchit les pas de tous les styles.
Ouais, du coup, rendez-vous, voilà, ça c'est à Boré, donc le 21 juin, ça se termine à minuit, il y a une buvette locale, les chiens ne sont pas les bienvenus, et il faut prévoir du cash parce qu'il n'y a pas de carte bleue sur place.
Et puis une petite offre sauvage qu'on espère riche et bigarrée, c'est le copain Rochelle. Qu'est-ce qu'il fait?
Oui. Et ben Rochelle, il organise une petite fiesta à Saint-André-la-Champ, donc c'est à deux pas du paradis. Des DJ qui vont se succéder derrière les vinyles toute la nuit. Un petit bar en autogestion, les tacos végétariens de Bibi, Quentin Cantine, pour compléter l'offre, sans compter les millions d'étoiles sous lesquelles le dancefloor est installé.
Wow.
Ça va groover. Ça va groover partout.
On enchaîne justement pour se mettre l'eau à la bouche avec un petit son de Zahar électrique qui a été enregistré au Metabol Arts en 2021.
On a téléphoné à l'Orzeli A ya me miran las ratas colgando a la basura Marsella de noche Quelma, quelma, melli, quelma, melli, ha Quella, quelma, quelma,
électrique, ils se sont bien présentés eux-mêmes lors du Metabol Art en 2021 qu'on écoutait avec un petit medley pour vraiment donner l'eau à la bouche.
Ça envoie du pâté.
Ça envoie du pâté. Et donc, vous pourrez les écouter demain à 20h15 sur la place du Château à Aubenas. Et puis, si vous voulez en savoir plus aussi sur le groupe, eh bien, écoutez l'Onde Curieuse de jeudi, puisqu'on les interviewera. Et voilà, ça promet aussi de beaux moments.
Et ouais, je vous propose de continuer tout de suite avec notre sujet du jour, parce que l'heure avance et qu'elle a beaucoup de choses à raconter. C'est Raquel Garrido.
Elle est intarissable.
C'est Raquel Garrido, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Raquel.
Ça y est, cette fois vous êtes en direct ou presque de fréquence 7.
Puisque nous enregistrons cette émission vendredi alors que vous venez faire une réunion publique à Villeneuve-de-Berre ce soir, mais l'émission sera diffusée mardi.
Alors du coup, vous venez en Ardèche pour présenter une idée qui trotte dans la tête de pas mal de monde depuis quand même quelques temps. c'est l'idée d'une 6ème République qui pourrait peut-être, et qui même devrait, ça serait souhaitable que ça advienne.
Oui, je pense que, notamment depuis le 16 mars, qui est cette journée où nous étions les 577 députés dans l'hémicycle, en attente de voter pour ou contre, d'ailleurs, la loi portant la retraite à 64 ans, et que 10 minutes avant le vote, l'Élysée a décidé que ce vote n'aurait pas lieu, parce que l'issue était incertaine, en fait, et qu'ils avaient peur de perdre ce vote. Et donc, ils ont activé le 49-3, ils ont dégainé le 49-3, comme on dit dégainer un revolver, dégainer un revolver contre la démocratie. Et ça a été un électrochoc, je pense, dans le pays. La France, aujourd'hui, a 49-3 raisons de passer à la 6ème République. Et visiblement, l'Ardèche aussi. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de cette réunion à Villeneuve-de-Berre vendredi.
Donc pour vous, le point de bascule, c'est le 16 mars de cette année. Mais c'est une idée qui mûrit dans vos esprits depuis un moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse d'une idée, la genèse de cette idée-là? Parce que c'était aussi dans le programme électoral de Jean-Luc Mélenchon depuis 2017. Hein.
Même avant.
À vrai dire, la contestation de la Constitution de 1958 naît avant même le référendum de 1958. En réalité, il existait en France une critique de ce projet du général de Gaulle, et on oublie trop qu'à l'époque de l'adoption de cette nouvelle constitution, la France était dans un état de tension à cause de la guerre en Algérie, et que les parachutistes avaient littéralement pris possession de la Corse, et que c'est sous la pression militaire d'un coup de force que le général de Gaulle a imposé cette constitution. Et en 1962, 4 ans après, il a organisé un nouveau référendum pour élire le président au suffrage universel, ce qui a été vraiment en fait le passage vers une situation où la personne en France qui concentre le plus de pouvoir gouvernant, le pouvoir gouvernant c'est ce pouvoir qu'on a au quotidien de prendre des décisions, eh bien en France, la personne qui concentre le plus de pouvoir gouvernant est irresponsable au sens constitutionnel du terme. Dans les grandes démocraties, les personnes qui gouvernent sont responsables, c'est-à-dire qu'elles rendent des comptes, soit devant, par exemple, le Parlement, voire devant les habitants eux-mêmes, dans les nombreux pays où il existe le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Et dans cette sorte de responsabilité qui se tient, en fait, par exemple, vous allez avoir des gouvernants qui peuvent dissoudre des assemblées, mais du coup, des assemblées qui peuvent ôter des gouvernants. Il y a une sorte d'équilibre des pouvoirs qui se fait. En France, non. En France, le président, il fait exactement ce qu'il veut à partir de la seconde où il est élu. Et l'élection du président au suffrage universel en 1962 a vraiment abouti, enfin achevé de donner à cette fonction-là un pouvoir extrême, une sorte de pouvoir illimité, une sorte de pouvoir permanent d'abuser du pouvoir. Et ça a donné lieu même à l'époque à des critiques féroces, et pas qu'à gauche. Hein. Par exemple, le sénateur de droite Gaston Monnerville disait que c'était une forfaiture. Pierre Mendès-France, qui lui était à gauche, était vraiment très, 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 très virulent contre la Ve République, ainsi que le Parti communiste. Et puis en fait, en réalité, la gauche, c'est un peu accepté la règle, en gros, à partir de 1981 et l'élection de Mitterrand. Donc la bataille pour la 6ème République, à ce moment-là, a mis de l'eau dans son vin. Et de fait, on est obligé de le reprendre. Alors c'est vrai, avec Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, on mène ce combat depuis plus de 10 ans maintenant. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense que cette idée-là a pris corps dans la société française. C'est-à-dire la France est à maturité. Il y a une maturité pour vraiment maintenant passer à autre chose. Et notamment à cause de ce conflit des retraites. Ce conflit des retraites qui a vu, en fait, un conflit entre un homme, le président de la République, et un peuple. Vu que 93% des salariés étaient contre la retraite à 64 ans, 70%, 80% des Français étaient contre la retraite à 64 ans, on peut penser que même la majorité de l'Assemblée nationale était contre, c'est pour ça qu'ils nous ont empêchés de voter, et cet homme-là, cette fonction, a tenu bon. Et quand je dis, et pour l'instant, je n'ai pas nommé son nom, Emmanuel Macron, c'est à dessein. C'est parce que ce n'est pas seulement la personne Emmanuel Macron qui pose le problème, c'est bien la fonction elle-même. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on commence maintenant, tout de suite là, à inventer l'après. On ne peut pas se contenter de dire que le système actuel ne va pas parce qu'il empêche des lois justes. Il faut tout de suite dire ce qu'on voudrait à la place et commencer à le mettre en œuvre. Et c'est pour ça que c'est très intéressant que partout en France s'organise ce type de réunions, qui sont des réunions en fait un peu constituantes, c'est-à-dire où les habitants disent, donnent leur avis légitime, puisque chacun d'entre nous est légitime à donner une opinion, à se forger une opinion sur comment on doit améliorer la qualité de notre démocratie.
Et justement, quel est le processus ou quels sont les processus envisagés pour mettre en place cette 6e République ? Est-ce qu'elle est conditionnée à une arrivée au pouvoir par l'élection présidentielle, par l'un des membres de la NUPES ? Ou quels sont les autres outils possibles pour changer la Constitution sans éventuellement attendre une arrivée au pouvoir ?
Longtemps, j'ai pensé que la seule voie d'accès était l'élection présidentielle. Hein. C'est ce qu'on a proposé lors de la campagne présidentielle de Mélenchon en 2012, puis 2017, puis 2022. Et je ne pense plus cela. Je pense qu'il faut s'y mettre là maintenant tout de suite. Que le fait que le président Macron soit minoritaire à l'Assemblée nationale, c'est une fenêtre d'opportunité. Et que de toute manière, on n'impose pas une nouvelle constitution par le haut. C'est vraiment la société elle-même qui doit être prise de ce désir de 6e République. Donc, et ça s'organise tout de suite, là, maintenant. Alors ça, ce n'est pas forcément institutionnel, puisque ça ne relève que de la volonté des citoyens eux-mêmes de s'organiser pour parler de tout ça. Mais il y a aussi des voies intéressantes. Par exemple, il y a actuellement une pétition qui a été déposée devant au Conseil économique, social et environnemental, lequel a la possibilité, depuis une loi de 2021, d'organiser des conventions citoyennes. Vous savez, les conventions citoyennes, il y en a eu pour le climat, il y en a eu pour la fin de vie. Donc, ces pétitionnaires proposent que le CESE organise une convention sur la démocratie. Pour cela, il faut obtenir 150 000 signatures et la pétition est déjà en ligne sur le CESE. Donc, vous voyez, il se passe des choses comme ça qui commencent en fait, à créer une sorte de toile qui, à mon avis, sera à un moment donné irréversible, si vous voulez. C'est-à-dire, si on lance ce grand débat dans le pays, par exemple en s'appuyant sur le pouvoir institutionnel, même secondaire, mais quand même réel, du Conseil économique et social, et au final, les parlementaires et les sénateurs devront suivre. Et en ce qui concerne le travail à l'Assemblée, nous, on est déjà sur le coup, vu qu'à la NUPES, on a mis en place un groupe de travail, du groupe parlementaire NUPES, qui en fait c'est une sorte de travail d'audition, on fait des auditions qui sont d'ailleurs en ligne, elles sont consultables sur ma chaîne YouTube Raquel Garrido. On est déjà à 12 heures d'audition. C'est vraiment très intéressant, on pose des questions aux constitutionnalistes, aux historiens, à des essayistes, à des professeurs en sciences politiques, et on essaie d'ores et déjà d'analyser le cœur en fait du problème en 5e République. Et c'est vrai qu'on atterrit souvent autour du même sujet. Hein. C'est l'idée que ce président de la République a trop de pouvoir et est irresponsable. Donc du coup, ça génère des conflits qui touchent maintenant à une situation qui génèrent plutôt des risques de violence. Vous voyez, quand vous essayez de tous les chemins pacifiques pour être entendu par les gouvernants, quand vous essayez d'adhérer au syndicat, de faire la grève, de manifester, de voter aux élections pour des députés qui sont potentiellement majoritairement d'accord avec vous, et que ça ne passe pas, vous créez une situation chaotique, violente possiblement. Et donc, il faut que nous prenions bien conscience que notre tâche, on va dire, générationnelle, hein, c'est l'éthique de notre fonction aussi de parlementaire aujourd'hui, en 2023, c'est de permettre aux Français de passer à cette 6e République. Et le plus tôt sera le mieux, et surtout ne pas attendre 2027, en tout cas, c'est mon intime conviction.
Mais du coup, la crise de légitimité de la personne et du rôle présidentiel, ça fait un moment que c'est dans les tuyaux. On voit les résultats des élections présidentielles. On se demande, bon, il y a des résultats qui légalement proclament Emmanuel Macron président. Dans la réalité, les chiffres montrent qu'il a été promu par un Français sur 10 ou sur 11. Sachant qu'il y a une crise de légitimité qui est présente, est-ce que vous voyez vraiment moi j'ai l'impression de ne pas voir émerger tant de rébellions que ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire défection de l'allégeance qu'on a envers la 5e République et ses institutions. Et moi j'ai quand même l'impression de voir des gens respectueux et de la police mise en place par le pouvoir et des décisions qui sont prises. Vous voyez émerger, vous êtes basé à Paris aussi, du coup vous voyez peut-être émerger plus de réactions, de groupes qui créent des réflexions sur les constituantes.
Alors, moi j'ai tendance à regarder ça avec le plus de hauteur possible. Il y a en France 50 millions de personnes qui sont en âge et en droit de voter. Sur ces 50 millions, il y en a 2,5 qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales du tout. Et sur les 47 millions et demi qui restent, il y en a 13 millions qui s'abstiennent ou votent blanc ou nul au second tour de la présidentielle, par exemple en 2022, et 12 millions au premier tour. Donc l'élection présidentielle, même si c'est l'élection dans laquelle viennent le plus de participants, n'est pas non plus satisfaisante du point de vue de la complétude hein, du corps électoral. Il y a quand même beaucoup de dégoûtés déjà en politique, et ça se voit encore plus dans d'autres types d'élections. Mais parmi celles et ceux qui vont effectivement voter et vont exprimer un choix, il ne faut pas croire que c'est une adhésion à la fonction elle-même. Je ne dirais pas ça. Je pense que c'est une compréhension que c'est là que se loge le pouvoir. Si vous habitez en monarchie et qu'on vous dit ce monarque, il a tous les pouvoirs, mais que vous avez le droit de décider ou d'influer sur qui ça va être, vous y allez le jour où on vous pose la question. Oui. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes d'accord avec la monarchie, mais ça veut dire que vous avez tout à fait compris que vous étiez en monarchie. Donc, je pense qu'il ne faut pas mésanalyser le fait que les gens viennent à cette élection. Et au contraire, je pense que c'est là que se situe le point de propulsion du nouveau débat. Parce que si vous posez à échelle de masse la question qui se pose aujourd'hui, qui est, selon moi, la suivante, faut-il encore un président de la République ? Eh bien, en fait, ça concerne des millions de personnes, cette question-là. Ouais. Et elle est très concernante. Et tout le monde viendra vous formuler un avis. Certains diront, ah ben oui, il en faut un quand même, mais il faut lui ôter ses pouvoirs pour qu'il puisse seulement, enfin, comme dans d'autres pays européens, inaugurer les chrysanthèmes, comme on dit. D'autres diront, il ne faut plus qu'il soit élu au suffrage universel. D'autres diront, ben il n'en faut plus du tout. Ça, c'est mon opinion à moi. Moi, je l'ai écrit ça en 2015. Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas en avoir du tout et que la chose soit clarifiée. C'est-à-dire que, en fait, cette fonction-là, elle vient parasiter, pour moi, la qualité de la souveraineté populaire, la souveraineté le souverain, la souveraineté c'est quoi ? La souveraineté c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Et donc depuis la Révolution française, le souverain c'est le peuple. Donc tout ce qui vient parasiter ceci doit être enlevé, et le principal obstacle à ce que la volonté générale émane de la société, et ça tout le monde a pu le constater pendant le conflit des retraites, c'est cette fonction présidentielle. Donc à partir de là, il faut embarquer tout le monde dans la conversation. Alors, vous dites où j'habite. Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, énormément d'abstention, énormément de dégoût. Ce dégoût, il ne se caractérise pas chez moi par un vote à l'extrême droite, comme ça peut être dans d'autres départements de France. Les gens chez moi sont beaucoup, beaucoup trop concernés directement par les politiques xénophobes ou racistes pour verser dans ce vote-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils adhèrent les yeux fermés au parti de gauche... Même les insoumis, je veux dire, il y a quand même un niveau de défiance très important vis-à-vis de la politique, et je pense qu'on ne sortira pas de cette défiance autrement qu'en instaurant des mécanismes de contrôle des politiques. Et notamment, moi je suis très attachée à l'idée de pouvoir révoquer les élus en cours de mandat, j'y crois énormément. Je pense que dans la 6e République, il faudra qu'il y ait ces mécanismes de contrôle pour que la défiance qui existe aujourd'hui en 5e République devienne une participation citoyenne afin d'obtenir des lois justes sur le plan social et aussi sur le plan environnemental. Je vous prends juste un exemple pour montrer que toutes les questions sont liées, les questions environnementales, sociales et démocratiques. Là, actuellement, à l'Assemblée nationale, je le disais tout à l'heure, l'Élysée est minoritaire. Donc on arrive assez souvent d'ailleurs, à voter des amendements ou des articles en étant arithmétiquement en majorité. À l'automne, on a voté, par exemple, un budget de 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. C'était un budget immense qui était vraiment à même de commencer à juguler des effets de transformation climatique. Ben, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? 49,3. Pareil pour le rail. On a voté 3 milliards d'euros pour le rail, 49,3. On avait voté un amendement d'une taxe sur les superdividendes. 49.3. Donc en fait, l'antisocial et l'anti-environnemental naissent dans l'antidémocratique. Ouais. Et il serait absolument vain, je veux dire, même un peu mensonger, de vouloir, quand on est de gauche ou écologiste, vouloir régler la question sociale ou environnementale sans préalablement, même, je dirais, régler la question démocratique.
Et qu'est-ce que vous pensez du coup de tous les gens qui, par dépit, par dégoût, se tournent vers des solutions genre Rassemblement National, alors qu'on sait pertinemment que ça s'engage vers des chemins plutôt autoritaires et autocratiques? Est-ce que vous pensez que c'est un simple manque d'information qui fait que des personnes se tournent vers l'extrême droite, par exemple, plutôt que de réfléchir en petits groupes associatifs à élaborer un autre modèle?
Je dis aux personnes qui soutiennent le RN et Madame Le Pen que Madame Le Pen, tout ce qu'elle veut, c'est être monarque à la place du monarque.
Mais oui,
elle
ne
veut pas que le peuple soit souverain. Ces gens-là disent qu'ils sont souverains, qu'ils sont souverainistes. Mmh. Mais ils ne sont pas pour la souveraineté du peuple. Oui. Ils sont pour la souveraineté de la France vis-à-vis des frontières. C'est quand même pas pareil, c'est pas la même notion, la souveraineté étatique que la souveraineté populaire. Donc on voit bien que, là par exemple dans le conflit des retraites, l'extrême droite ne servait à rien. Ils ont même proposé encore moins d'amendements que les macronistes eux-mêmes. En dehors des questions de islam ou immigration, ils n'ont strictement rien à dire. Et c'est même pire, ils sont césaristes, enfin ils sont ancrés dans une histoire longue de ce pays, qui est une histoire qui est hostile en fait à la République, qui est hostile à la souveraineté du peuple. Ils sont pour être monarque à la place du monarque, ils sont césaristes, bonapartistes, appelez ça comme vous voulez, mais ils ne sont pas pour la démocratie et le pouvoir du peuple et la République. Donc, si vous pensez que Macron est un problème parce qu'il concentre trop de pouvoir et qu'il en abuse, eh ben, si vous gardez le même système, vous aurez le même résultat avec d'autres individus. Mmh. Alors, ce qui nous différencie, nous, à la NUPES, c'est qu'on veut gagner l'élection présidentielle, mais pour une dernière fois, si j'ose dire. C'est-à-dire pour que ce soit la dernière fois qu'il y ait une présidence de la République dans ce cadre institutionnel, et qu'on passe à autre chose. Tandis que l'extrême droite, c'est tout l'inverse. Elle veut gagner l'élection présidentielle dans le cadre de la Ve République, qui lui va comme un gant.
Oui.
Et mettre en place, si vous arriviez au pouvoir, et mettre en place une assemblée constituante pour créer cette Sixième République. D'après vous, à quoi elle pourrait ou à quoi elle devrait ressembler, et comment vos projets s'articulent avec tout le travail que vous initiez aujourd'hui, à savoir récolter un petit peu les envies, débattre avec les citoyens. Comment vos propositions s'articulent avec celles qui sont en train de naître, de se débattre de la part des citoyens?
Je pense que le moment venu, en effet, il faudra une assemblée constituante. L'assemblée constituante, c'est une modalité qui a été inventée en France à la Révolution française. Et donc, c'est l'idée que nous désignons des personnes partout dans le pays pour travailler à une nouvelle constitution. Et ce travail-là, ensuite, il est proposé de façon démocratique par référendum aux Français pour adoption ou rejet. Et pendant ce débat, pendant ce temps de discussion, d'élaboration de cette nouvelle constitution, il faut que ça transpire avec la société, il faut que ça respire vraiment au niveau de chaque commune, de chaque quartier. Et effectivement, il y a un enjeu d'archivage et de remontée. Hein, c'est une question très importante, c'est-à-dire les gens ne sont pas là pour parler dans le vide. Il faut aussi que ce débat s'articule, il y ait des remontées. Je pense que le moment venu, il faudra s'appuyer pleinement sur les réseaux des mairies et autres, et les nouvelles technologies aussi. Maintenant, on a des façons de travailler qui sont peut-être qui facilitent ces choses-là, pour pouvoir s'assurer que ce qui émane de la société directement soit bien pris en compte par l'Assemblée constituante. Un exemple récent au Chili, où il y a eu une Assemblée constituante, montre qu'il ne faut pas se planter, en fait. Il faut quand même que l'Assemblée constituante reste connectée sur la société et identifie correctement le centre de gravité de la société. Moi j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé au Chili, et je me dis, il faut faire attention, quand on touche à la Constitution, de ne pas être 15 000 km en avance de la société elle-même. Mmh. En fait, il nous faut une Constitution qui nous ressemble, les Français, et qui nous rassemble aussi. Donc c'est pas la peine d'imaginer quelque chose où on va passer en force avec des 50% plus une voix, quelque chose d'extrêmement clivant ou quoi. Je pense que c'est un moment plutôt fédérateur, plutôt pacifique. En fait, moi j'envisage les choses comme une sortie pacifique par rapport à une situation très tendue qui existe aujourd'hui, une situation de voilà, violente potentiellement. Oui. Je pense que personne n'aspire à la violence, personne ne veut la violence. Et au contraire, ce qu'on veut, c'est quelque chose de pacifique. Enfin, on veut pouvoir organiser le consentement, notre propre consentement aux règles qu'on va édicter nous-mêmes. Voilà, donc ce serait un moment de fraternité, un moment de liberté, un moment même, si j'ose dire, de patriotique, si j'ose dire. Voilà, c'est-à-dire cette idée qu'on se dit, nous les Français, on n'est pas d'accord entre nous sur un tas de choses, ouais. Mais est-ce qu'au moins on est d'accord pour organiser la façon d'être en désaccord.
Ben oui, parce qu'au final, ça fait un moment que je comprends qu'une démocratie réelle qui se revendique de cette appellation-là, elle fonctionne par le dissensus et pas par le consensus, et que du coup... l'occasion d'une constituante, ça peut être justement celle d'exprimer énormément de points de vue différents et de savoir les écouter et les entendre tous. Et par le débat et l'échange d'idées et d'informations, on arrivera peut-être à élaborer quelque chose qui convienne. Mais en fait, c'est un devoir démocratique, la dissension.
Exactement, exactement. Il n'y a que dans les dictatures où il n'y a personne, où il n'y a pas de conflit politique. Les conflits politiques sont consubstantiels à toute société. Le problème, c'est quand vous n'avez pas d'outils pour les purger. Or, c'est le cas de la Ve République. La Ve République crée une fiction, ce serait qu'il n'y a pas de conflit entre le président et le peuple. Ouais. Cette fiction repose sur l'élection du président au suffrage universel. Vous l'avez vu, là, d'ailleurs, pendant le mouvement des retraites, le président a dit « Mais vous venez de m'élire, c'est vous qui m'avez mis là. » Donc, vous ne pouvez pas être en désaccord avec moi, vu que je suis l'expression de votre suffrage universel. Et c'est là que se loge vraiment le caractère très, très pernicieux de ce raisonnement. Il n'y a pas dans la Constitution de façon de révoquer le président. Il n'y a pas de façon pour les Français de dire, ben non, maintenant ça s'arrête, tu démissionnes, de l'imposer. Toutes les solutions possibles, par exemple la démission du président, qui serait selon moi quand même une bonne solution, ne procèdent que de son propre pouvoir. Donc il faut que toutes les personnes qui ont du pouvoir puissent en rendre compte, puissent voir ce pouvoir arrêté par d'autres membres de la société tout entière, ou au minimum le Parlement. Et donc quand il n'y a pas de conflit, c'est qu'il y a anguille sous roche, quoi, comme vous le dites.
Et justement, dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui, notamment dans votre groupe de travail, dans votre intergroupe NUPES de travail à l'Assemblée nationale, dont c'était la quatrième audition, là, il y a deux jours, je pense, le 14 juin.
Mercredi 14 juin.
C'est ça. Enfin oui, donc ça fera six jours pour les auditeurs. Comment, justement, est-ce qu'il y a du dissensus, déjà, au sein d'intergroupes? Parce que, effectivement, quand on parle de 6e République, ça évoque... Alors, je pense que vous êtes d'accord sur le problème fondamental qui est la fonction présidentielle de la 5e République. Après, pour la 6e République, ce qui est normal, il y a plein d'idées qui doivent se confronter. Donc, j'aimerais savoir, d'une part, au sein même de cet intergroupe de la NUPES et de la NUPES elle-même, comment se joue le dissensus? Et puis, alors ça c'est une petite question pour moi qui m'intéresse toujours, mais est-ce que vous auditionnez aussi des spécialistes du droit public et du droit constitutionnel qui sont opposés à cette 6e République?
Alors, nous avons tous été élus sur un programme, les députés de la NUPES, qui proclame la nécessité de passer à la 6e République.
D'accord.
On est tous d'accord sur l'idée que dans le cadre actuel, il y a un pouvoir excessif de l'exécutif et que le Parlement lui-même est écrasé et que donc la 6e République doit remettre du pouvoir parlementaire. Pour le reste, le programme, il est quand même assez maigre. Et même quand on regarde le programme des Insoumis, ça reste quand même assez maigre. Les Insoumis ont dit des choses sur les grands droits et libertés qui pourraient figurer dans cette nouvelle 6e République. Je pense par exemple à des droits sur les femmes, l'environnement, des grandes libertés, etc., dont on a pu parler. Et puis des figures plus démocratiques, comme on va dire plus liées au suffrage lui-même, comme le droit de révoquer les élus ou la prise en compte du vote blanc et nul, par exemple. On a pu dire des choses comme ça. On va retrouver ce type de propositions aussi chez les autres, notamment chez les écolos qui ont pas mal écrit là-dessus. Les communistes, ils ont eu une époque où ils travaillaient pas mal là-dessus, maintenant plutôt un peu moins en ce moment. Bref, au final, il y a des opinions variées, mais je dirais même qu'il y a des opinions variées au sein des partis. Mmh. Je prends juste un exemple, la question de la suppression de la fonction présidentielle, qui est mon opinion personnelle à moi, n'est pas dans le programme L'Avenir en commun. Mmh. L'Avenir en commun ne traite pas cette hypothèse-là. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on avance tous. Et notre façon de faire, ce qu'on a proposé comme méthode dans le cadre de ces auditions, c'est d'avoir quand même une optique bienveillante et ouverte. C'est-à-dire que pour l'instant, on auditionne des gens et ça nous aide à nous forger une opinion et on n'est pas pressé. Ouais. Et donc on ronge l'os un peu, comme nous l'a dit Laureline Fontaine, qui est une constitutionnaliste qu'on a auditionnée. On va un peu ronger l'os. À chaque fois qu'on auditionne des gens, ça ouvre des nouvelles questions. Mmh. Et donc on continue le travail. L'idée, c'est effectivement de sortir de tout ça, si possible, avec un programme constitutionnel. Oui. Le plus abouti possible, mais j'ai pas peur d'éventuels désaccords. Je vois bien qu'il y a des approches et des cultures un peu différentes, mais pour l'instant rien qui me semble insurmontable. Et de toute façon, s'il y a des désaccords persistants, c'est pas grave, c'est aussi la vie, parce que dans un processus constituant, il y a nécessairement des désaccords. Moi j'imagine que dans une assemblée constituante ou dans une grande campagne pour désigner des constituants, il y aura des listes de, je sais pas, de royalistes, quoi, qui diront « Ah ben, il faut faire vraiment une monarchie pour de bon, avec un roi Louis, je sais pas combien, 21 ou 22, je sais pas où
ils sont. » Et il faut savoir les entendre. Vous, par exemple, comme
leur place, évidemment.
Comme parlementaire qui travaillait sur la question même de la représentativité, est-ce que vous arrivez à faire l'exercice de vous extraire de ce rôle qui vous est dévolu d'être représentant d'une portion de peuple pendant un temps donné? Est-ce que dans les réflexions, vous arrivez à remettre ça en jeu sur la table et à dire que peut-être il y aurait d'autres pistes à envisager?
Ça, c'est très intéressant. Merci Quentin. Et merci Raquel. Mais vraiment, cette articulation, parce que quand je vous entendais parler tout à l'heure, Raquel Garrido, on entendait bien, mais parce que vous êtes parlementaire actuellement, cette articulation entre l'Assemblée nationale, donc une assemblée représentative, et une démocratie participative. Est-ce que cette articulation-là, pour vous, elle doit se maintenir ou elle doit aller vers un équilibre différent?
Aujourd'hui, la démocratie participative n'existe pas, très concrètement. Il n'y a pas... En 2008, la dernière révision constitutionnelle qui a mis en place quelques outils novateurs de démocratie directe, et notamment le RIP, le référendum d'initiative partagée, a été rédigé pour que ça ne marche jamais.
C'est ça.
Bon. Donc aujourd'hui, tout est à faire du point de vue de la démocratie directe, du point de vue de la démocratie participative.
Ce qui se passe un petit peu dans nos communes. Pardon, on a par exemple la commune de Saillant, bien sûr, ou d'autres communes qui essaient de d'élire, enfin de proposer une démocratie vivante et directe.
Oui, d'ailleurs, je pense que quelqu'un nous en a parlé de Saillant, parce que moi, à l'époque, j'avais beaucoup suivi à l'époque des municipales. Je crois que c'est municipal de 2014, si je me souviens bien. Mm. Et quelqu'un dans nos auditions nous en faisait un bilan un peu plus contrasté.
Oui, mitigé, oui.
Mmh. Oui, c'est intéressant toutes ces expériences-là. C'est clair que ça aide à produire... Il faut quand même être audacieux et créatif. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois, mais quand même, 2023, c'est une société où il y a plusieurs millions d'étudiants, les gens ont accès aux informations... c'est une société qui est beaucoup plus avancée que l'était la société de 1958.
Ouais.
Donc il y a quelque chose là qui est une opportunité pour qu'il y ait davantage de démocratie participative, comme on dit, ou de démocratie directe, qui n'est pas exactement d'ailleurs la même chose. Mmh. Mais c'est vrai que nous, dans le cadre des auditions, alors évidemment, ces sujets-là sont abordés, souvent parce que ce qu'on appelle la crise de la démocratie, moi j'aime pas appeler ça la crise de la démocratie parce que j'ai l'impression qu'on parle de la crise de l'idée démocratique. Mmh. Or, il me semble que ce conflit des retraites a montré que lorsqu'il y a eu des passages en force, il y a au contraire eu un regain de mobilisation. Il me semble que l'aspiration à la démocratie, elle est forte dans ce pays.
C'est une crise de la démocratie de marché libéral.
Les institutions démocratiques actuelles, peut-être.
Ouais, c'est, puis c'est une crise de en fait, c'est une crise de ce gouvernement et de cette constitution. À la limite, je veux bien dire une crise de cette constitution. Voilà. Mais je suis pour partir du principe que le peuple français a des aspirations démocratiques. Parce que quand on n'est pas précis sur ce point, on a tendance, là j'ouvre une petite parenthèse, il y a un risque à prêter le flanc à tout un discours peuplophobe qui existe fortement dans les élites aujourd'hui, dans les élites économiques et de pouvoir, et qui n'est pas nouveau. Il vient notamment du grand référendum sur le traité constitutionnel européen. Et depuis là, depuis lors, vous avez des élites qui disent, mais qui a eu cette idée saugrenue de demander son avis au peuple?
Et intégré par une partie du peuple, par une partie des citoyens aussi. Intégré.
C'est possible, oui, bien sûr, c'est possible. De toute façon, ça a toujours existé, ça. Mais ce n'est pas majoritaire. Et donc, pour revenir à la question que vous me posiez, oui, sur la démocratie représentative, quand on parle de crise de la démocratie, souvent l'entrée en matière, c'est d'aborder la crise de la représentativité, la crise du système représentatif lui-même. Ce que je ne nie pas qu'il soit affaibli, notamment par l'abstention, qui est un signal très clair de manque de force et de légitimité. Mais j'ai tendance à penser, mais on en a beaucoup parlé dans les auditions, que l'enjeu actuel, il n'est pas de remettre en cause tant la démocratie représentative à la faveur d'une démocratie plus participative directe. Ça, il faut le faire bien sûr, mais fondamentalement, la vraie bagarre, la vraie guerre, si j'ose dire, elle se situe entre l'exécutif et le reste.
Et le législatif.
Et dans l'exécutif, l'Élysée. Voilà. Il y a écrit quand même, c'est écrit dans la Constitution, article 20, que le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Je veux dire, c'est une blague. C'est une blague. Le Premier ministre, aujourd'hui, le président prend un passant dans la rue pour être Premier ministre. Hollande avait choisi Manuel Valls, qui était personne, il avait juste fait 4% dans une primaire interne. Macron prend Édouard Philippe, qui n'a même pas fait sa campagne présidentielle de 2017. Mais il n'a même pas fait sa campagne, il a juste dit, le maire du Havre, ok, proche de Juppé, allez, viens. Et Castex, c'est, enfin, je veux dire, Borne, c'est quoi ça? Donc le Premier ministre, c'est vraiment une sorte d'appendice tout à fait aplati de l'Élysée. Or, ça, c'est pas écrit dans la Constitution et pourtant ça existe. Donc là, vous voyez bien que, par exemple, quand on prend ce problème-là, ça ne se résout pas seulement par la rédaction de la Constitution, vu que c'est écrit dans la Constitution que le Premier ministre a le pouvoir. Donc il faut quand même qu'on identifie correctement le sujet. Et j'ai un petit peu... moi, j'en suis arrivée à la conclusion que l'entrée en matière, ça doit être la question du président. C'est celle qui est la plus concernante. Alors après, on me dit, mais on en parle dans les auditions, c'est très intéressant, on me dit, oui, mais ça, c'est un truc de coupeur de tête, etc. Bon, mais je veux dire, c'est aussi ça qui fait la force de l'histoire républicaine française aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a un point de tension entre le pouvoir absolu qui s'échafaude à travers le temps et qui, par exemple, est arrivé à la monarchie absolue, et puis il y a finalement une reprise en main par le peuple de façon plus horizontale, ce mouvement comme ça de pendulaire entre la concentration sur l'un et au contraire la diffusion sur le tout, et on en est là. Donc il faut quand même contester le pouvoir là où il est et aussi le prendre là où nous sommes nous, faire les deux choses à la fois.
Donc là, il y a le travail, on démarre le travail d'un peuple qui doit apprendre à savoir faire tomber quelques têtes pour que tout émerge.
C'est ça, d'un peuple qui doit se regarder dans la glace et se dire, ah ben tiens, je suis le souverain.
Raquel Garrido, enregistrée vendredi 16 juin autour de la 6e République. L'onde curieuse se termine tout doucement. On se retrouve jeudi pour la dernière onde curieuse de l'année. Et ce sera une spéciale où on vous présentera un petit peu ce qu'il y aura sur l'antenne pendant tout cet été. Il y a des petites pépites, des petites choses un petit peu innovantes. D'ici là, restez sur Fréquence 7. À 15h, avec le Telex, vous pouvez laisser vos messages au 04 75 93 30 25.
Bien joué.
Hey, à 17h, c'est parce que c'est l'avant-dernière, c'est pour ça. À 17h, c'est polémique, c'est la voix off.
À 17h, c'est la rediff de l'onde curieuse.
À 17h, c'est la rediff de l'onde curieuse, exactement. Et c'est pas du tout polémique, c'est la voix off.
Alors, je suis désolé, elle sera un peu amputée des informations, mais vous retrouverez l'entretien avec Raquel Garrido.
Ouais. Oui, voilà, c'était histoire de préciser ça. Non, polémique, c'est la voix off, c'est à 18h alors, sur Burning Heads. À 20h, c'est Salut à toi avec un spécial été, spécial été, spécial vacances. Et à 21h, c'est Metal Zone, pareil, la dernière. Restez sur Fréquence 7, on se retrouve très vite. Merci beaucoup, Quentin.
Ouais, à jeudi, n'oubliez pas que demain, c'est le solstice d'été, c'est la fête de la musique et c'est l'annonce officielle de la dissolution des soulèvements de la Terre par le gouvernement. Donc restez à l'écoute, mais surtout restez à l'écoute du monde qui vous entoure, des battements de cœur de la Terre. Mobilisons-nous. Bisous, bisous.